Je m'appelle Sarah Normandin et je suis nutritionniste depuis plusieurs années. Ma passion, c'est d'apprendre à retrouver le plaisir de manger, de te montrer que ça peut être simple, mais surtout de t'aider à faire la paix avec ton corps et avec les aliments. Dans le podcast « Le maudit poids », prépare-toi à être surpris, à peut-être même être choqué par ce que tu vas entendre, mais fais-moi confiance. Le chemin vers la libération en vaut vraiment la peine. Petit avertissement, trigger warning, dans cet épisode, on va parler de troubles alimentaires incluant les comportements compensatoires comme des vomissements, par exemple. Donc, si c'est quelque chose qui est sensible pour toi, je t'invite à le considérer avant d'écouter l'épisode. Tu peux aussi aller voir les ressources si tu as besoin d'aide pendant ou après l'écoute de l'épisode dans la description du balado. Salut tout le monde! Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast « Le maudit poids ». Aujourd'hui, très heureuse, je suis avec une collègue nutritionniste, Linda Lantier. Bonjour Linda!
Bonjour Sarah! Merci beaucoup de ton invitation, ça me fait super plaisir d'être ici avec toi.
Bien, merci à toi de prendre le temps, je suis vraiment, vraiment contente. En fait, j'apprends en même temps à découvrir un peu ton parcours, fait que je suis super contente. Tu m'as fait signe parce que toi, tu travailles dans les troubles alimentaires, fait que c'est pas mal ça le sujet de l'épisode aujourd'hui, mais avant de rentrer là, vraiment dans le vif de tout ça, j'aimerais ça que tu nous parles de toi, de ton parcours. En fait, la question genre de base que j'aime poser à mes collègues, c'est pourquoi la nutrition?
En fait, je t'avoue qu'au départ, je voulais être psychologue.
Ah, okay, on
et
a un bon
j'ai commencé, pas à l'université, mais au cégep avec cette intention-là de devenir psychologue. Puis en cours de route, j'ai comme vécu une situation qui m'a fait mettre en doute par rapport à ce choix de carrière-là. Et je sais que j'aime quand même énormément la santé physique, la santé mentale. Donc, ça pouvait être aussi éducateur physique et nutritionniste, évidemment, parce qu'on parle beaucoup, beaucoup de la santé, de saines habitudes de vie. Fait que je me suis intéressée à la nutrition de cette façon-là. Puis, j'ai amorcé mon bac il y a déjà très longtemps de ça.
Puis, je suis curieuse de savoir comment tu en es arrivée à vouloir travailler avec la clientèle qui souffre de troubles alimentaires.
Oui. Alors, ben c'est ça. J'ai fini mon bac à l'université. Puis, j'ai travaillé un petit peu dans les hôpitaux, en communautaire. Puis, je faisais aussi de la pratique privée. Puis, en pratique privée, ben on voit toutes sortes de clientèles, mais beaucoup, 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 beaucoup de gens qui veulent... À cette époque-là, c'était perdre du poids. Donc, venaient consulter pour des pertes de poids. Puis, je me suis retrouvée à un moment donné avec une jeune fille qui souffrait d'anorexie. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais limitée dans mon intervention. Je comprenais absolument pas qu'est-ce qui se passait parce que mon enseignement était de évident là, tu sais, tu manges pas beaucoup donc tu dois manger plus. Je voyais une énorme résistance chez cette cliente-là qui était comme complètement fermée. Et ça m'a énormément touchée parce que je sentais la souffrance de cette jeune fille-là qui avait un souhait d'arrêter cette restriction-là, mais une peur très intense de prendre du poids. Fait que je me retrouvais à pas être outillée pour l'aider et ben, évidemment, j'ai dû aller chercher des ressources, plein de ressources pour pouvoir aider cette clientèle-là. Entre autres, l'anorexie et l'hyperphagie, ben, ça faisait partie aussi du parcours. Tu sais, à ce moment-là, on n'entendait pas beaucoup on n'entendait pas du tout parler d'hyperphagie.
Oui, non, c'est juste tout, c'est vrai.
Non, c'est juste des gens qui avaient un embonpoint ou une obésité, puis voulaient maigrir pour leur santé. Donc, on faisait un beau petit plan alimentaire, les gens étaient contents, perdaient du poids, c'était le paradis pendant la perte de poids. La lune de miel, elle termine, évidemment, et puis les gens se remettent à avoir des envies de manger, des envies que je comprenais pas trop, voyons pourquoi elle veut manger cette personne-là, puis tu sais, mon parcours au départ, je voulais être psychologue. Fait que je suis hyper curieuse d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne, pourquoi ça ne fonctionne plus, pourquoi elle ne maintient pas ses comportements. Fait qu'encore là, je me suis intéressée beaucoup à la psychothérapie, évidemment. Donc, j'ai fait des recherches au niveau de la thérapie cognitivo-comportementale, entre autres, entrevue motivationnelle. Puis, pour mieux comprendre cette clientèle-là, puis bien, de fil en aiguille, bien, ça a été ma clientèle cible. Maintenant, je travaille qu'avec les gens qui souffrent de troubles alimentaires.
Wow, c'est vraiment génial. Ça me fait rire parce que, tu sais, tu dis, je pense que toutes les nutritionnistes qui travaillent un peu en relation avec la nourriture, on a toutes lorgné le cours de psychothérapie. Je me rappelle avoir regardé ça moi aussi, puis je disais, je le fais-tu, je le fais-tu pas? Finalement, j'ai pris des formations autres pour essayer de comprendre plus, mais c'est un tronc commun souvent qui revient parce que je pense que c'est tellement ancré dans ce qu'on fait quand on travaille la relation avec la nourriture. On n'est plus juste dans le physique, finalement. Là. Je trouve ça intéressant que tu le mentionnes. Puis, il y a un autre point que je trouvais le fun aussi, que je vais comme en profiter parce que c'est rare qu'on en parle, mais la nutrition, elle a tellement évolué dans les dernières années. Puis là, c'est le fun parce que toi, tu as vraiment été au cœur de tous ces changements-là. Tu as vu de point A, tu as fait tes études, tu as terminé ton bac à ce que c'est aujourd'hui. Quand on parlait de la pratique en nutrition, quand on parlait de poids, quand on parlait de... C'est vraiment plus ce que c'est aujourd'hui dans le sens où il y a beaucoup de sciences qui a évolué depuis. On pense à l'alimentation intuitive qui est là quand même, qui n'existe pas depuis très récemment, mais qu'on inclut de plus en plus dans nos pratiques. Même comme moi, j'ai commencé il y a quoi, 10 ans? L'alimentation intuitive, c'était quand même utilisé en vue des fois de perdre du poids pour aller retrouver son poids naturel. Fait que je me dis, mettons, on recule encore plus que ça. Je sais pas tes impressions là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, mais...
c'était pas un terme qu'on utilisait, alimentation intuitive, là, à ce moment-là. Mais moi, je sentais personnellement que les gens avaient vraiment besoin de plus qu'un plan alimentaire, que c'était vraiment plus profond que ça, le problème, et puis qu'il y avait plusieurs enjeux derrière. Puis ma curiosité m'a poussée à essayer de comprendre l'être humain dans sa globalité. Donc, qu'est-ce qui peut amener une personne à consommer des grandes quantités de nourriture en sachant très bien que c'est pas la bonne chose à faire. Donc, une personne intelligente qui est prise dans un engrenage ou n'a pas aucun contrôle sur son alimentation, ça me fascinait positivement, là, parce que je me disais, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire, là. Ça se peut pas que cette personne-là puisse rien faire. Et de fil en aiguille, ben, j'ai appris à comprendre tous les mécanismes sous-jacents qui amènent une personne à consommer des grandes quantités de nourriture de façon soit émotionnelle. Ça, c'est pas quelque chose qu'on parlait beaucoup à l'époque, mais comme je te dis, je suis super intuitive. L'alimentation intuitive n'était pas là, mais moi, je l'ai intuitive à ce moment-là. Fait que là, je comprenais comme, OK, cette personne-là vit tel enjeu, puis elle a tel besoin, puis elle répond à ce besoin-là avec tel moyen qui est l'alimentation. Et là, je faisais plein de liens dans ma tête, puis je trouvais ça tellement fascinant. J'ai même suivi un cours de psychothérapie pendant 4 années. Je suis même devenue psychothérapeute, mais par la suite, bon, il y a eu la loi 21 qui a fait en sorte que j'avais à décider est-ce que je voulais devenir psychothérapeute ou avec la loi grand-père, là, je pense qu'il appelait à l'époque. Mais finalement, j'ai dit non, je reste nutritionniste, c'est ma passion. Bon, aujourd'hui, je le regrette un tout petit peu, je te dirais.
C'est
vrai? Oui. Sans laisser le titre de nutritionniste, j'aurais quand même pu avoir le privilège de porter quand même psychothérapeute à ce moment-là. Mais là, il est vraiment trop tard pour le faire. Mais mon but d'être psychothérapeute n'est absolument pas de faire de la psychothérapie avec les clients dans le but de régler des problèmes de couple ou des problèmes...
Non, c'est
vraiment la relation avec la nourriture, d'aller un petit peu plus loin dans la relation avec la nourriture, je trouve ça vraiment fascinant.
Mais c'est vrai, puis c'est vrai qu'on s'en sort pas avec les troubles alimentaires, en fait. Puis là, on parle de troubles alimentaires depuis tantôt, j'en parle souvent dans plusieurs épisodes, mais je pense que j'en profiterai avec toi pour définir un peu ce que c'est, puis les types de troubles alimentaires. C'est rare que j'ai comme pris le temps d'arrêter ça. Ça te tente dessus.
Si tu veux. Évidemment, ce qu'on connaît le plus, ben, c'est l'anorexie. Puis même quand ils parlent de trouble alimentaire, souvent, ils vont parler d'anorexie. C'est ça. Un trouble alimentaire, c'est de l'anorexie. Donc, anorexie qui est de la, évidemment, de la restriction alimentaire. La personne, au départ, a toujours une bonne intention derrière, mais ça termine souvent avec des gros problèmes au niveau de la relation avec la nourriture, de la relation avec le corps, de la santé également. Fait que plus tôt on intervient, puis on sait qu'avec la COVID, ça a été comme assez fou, les gens qui arrivaient avec des troubles alimentaires très, 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 très jeunes, là, d'être déstabilisés énormément par le changement que la COVID a amené. Les jeunes n'avaient plus de repères, les jeunes essayaient de rester en santé, de prendre soin d'eux, de s'occuper. Et c'était tourné beaucoup vers prendre soin d'eux par la nourriture, par l'activité physique, et ça déboulait dans un trouble alimentaire de type restrictif, là, anorexie. Heureusement, quand c'est pris très, très tôt, souvent, le rétablissement est plus rapide. Dans la plupart des cas, c'est ce que j'ai remarqué. Quand ça fait très, très longtemps, des fois, ça peut être très, très long également.
Il y a des dangers qui peuvent être assez sérieux aussi. Des fois, je pense que c'est pas tant... c'est quasiment normalisé, tu sais, avec le fameux « mange moins, bouge plus ». On dirait que des fois, il y a des gens qui vont se dire « ouais, mais c'est pas grave si je mange moins, tu sais, je réussis à perdre du poids, c'est bon pour ma santé ». On peut quand même se retrouver avec des sérieux problèmes, voire même être hospitalisé quand on souffre d'anorexie sévère.
Ouais. Oui, parce que à un moment donné, c'est que les discours de la société qui valorisent prendre soin de soi en mangeant moins, en bougeant plus, ben manger moins, ça veut dire quoi dans la tête d'une jeune de 12, 13, 14 ans? Ça veut dire quoi? Exactement. Manger moins que quoi? Que qui? Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Même par rapport à l'équilibre alimentaire, c'est comme au niveau de l'équilibre, au niveau de la santé, le manger le moins gras possible, le moins de sucre possible, donc moins que quoi, moins que qui, elles ne le savent pas. Puis même des fois, c'est comme je leur pose des questions, puis ils n'ont aucune idée de la réponse, du pourquoi ils le font. Ils ont décidé qu'ils mangeraient 500 calories. Ils ont décidé que parce que c'est ça qu'il faut faire, parce que je veux manger moins que mon ami, mais qui mange moins que la majorité des gens. Donc, à un moment donné, il y a beaucoup de comparaisons. Il y a même de la compétition entre les jeunes d'être le plus mince possible. C'est quelque chose, je te dirais, là, c'est assez troublant de voir tout ce qui se passe dans la tête d'une adolescente qui a plus de repères du tout. Avec ce petit mot-là, bien simple, manger moins, bouger plus.
Oui. Ouais. Ah, c'est mon combat de tous les jours, ça, démystifier. Cette maudite de phrase-là, par rapport au poids, justement, mange moins, bouge plus, tu vas perdre du poids, c'est tellement plus complexe que ça. Mais oui, puis ça peut avoir des impacts, puis ça en a. Je sais pas si toi, t'en vois, mais de l'anorexie aussi à tous les poids, moi, c'est ce que je vois beaucoup plus, fait, ou des signes d'anorexie, parce que c'est rarement, on va se le dire, c'est rarement diagnostiqué. Mais j'aimerais ça que tu nous l'expliques peut-être un petit peu.
Oui. Généralement, il y a des critères diagnostiques qui amènent le diagnostic de l'anorexie, mais il y a tous les gens qui font de la restriction alimentaire très sévère, qui amènent des carences au niveau de l'alimentation aussi. Donc, quelqu'un qui était à 220 livres, c'est pas normal que dans 6 mois, elle soit rendue à 120 livres. C'est absolument pas normal tout ça. Donc, il y a eu une grande restriction alimentaire et malheureusement, c'est valorisé. Parce que les gens ne savent pas que la personne est en privation, est en restriction, qu'elle se sous-alimente, qu'elle a des étourdissements, qu'elle se fait vomir, même dans certains cas, là, donc plus, je dirais, boulimie. Mais il y a des restrictions alimentaires avec boulimie aussi, donc... Il y a toutes sortes de choses qu'on peut voir, puis c'est difficile d'étiqueter des fois, de dire « Ah, ça, c'est vraiment une anorexie, ça, c'est vraiment... » Parce qu'il y a toutes les nuances de mauvaise relation avec la nourriture et le corps, là. Fait que oui, il y a des gens de 150 livres qui sont en restriction et qui sont aussi souffrants que la personne qui va peser 95 livres. Sauf qu'on voit pas la souffrance psychologique. On la voit dans les conséquences au niveau de la santé, quand il y a des évanouissements, on est plus à l'affût de dire, OK, là, il faut une hospitalisation, il faut intervenir, il faut faire quelque chose. Mais la personne qui est à 150 livres, qui a perdu 80 livres très rapidement, elle est aussi souffrante que... Puis on n'a pas à comparer la souffrance, là,
souffrance. Mais c'est juste qu'anorexie dans la tête des gens, c'est des gens qui sont ultra maigres, ultra maigris, ça se voit, c'est visible, alors qu'on ne voit pas les comportements alimentaires. Fait qu'on pourrait même être en obésité importante, puis être en comportement restrictif sévère, mais ça se voit pas, parce qu'encore là, on apporte le concept de grossophobie, mais de dire c'est impossible que si tu manges pas assez, tu perdes pas de poids. Mais il peut avoir quelque chose en dessous de ça. Oui, ça se peut, puis il y a plein de mécanismes là-dedans. Mais puis encore là, tu sais, s'il y a une bonne perte de poids, mais en restriction sévère, qui est à risque, mais les professionnels de la santé, des fois, ils ne le savent pas. T'sais, le médecin va féliciter une perte de poids. Il n'y aura pas nécessairement le temps de creuser plus que ça. La personne ne le dira pas non plus. Hey, finalement, je mange juste 500 calories par jour. C'est comme ça que j'ai réussi à perdre du poids. Non, tu sais, parce que dans sa tête, cette personne-là, c'est sain de faire ça, puis perdre du poids, ça améliore la santé. Mais des fois, les risques sont vraiment plus élevés que les bénéfices de ce comportement-là, finalement. Mais comme tu dis, cette souffrance-là, on la voit pas, mais des fois, c'est honteux aussi, tu sais, de vivre avec tout ça, finalement. Fait que merci d'en parler.
Ouais. Puis les gens, souvent en bureau... moi, je fais ressortir vraiment le discours intérieur et disent ben je suis en santé. Les gens sont en santé jusqu'à temps qu'ils sentent qu'ils sont plus en santé. Et
c'est bon.
C'est difficile de définir pour qui, c'est quoi la santé pour toi. Et quand je fais les signes et symptômes, là, je vois comme, OK, perte de cheveux, t'as toujours froid, t'as mal au cœur, t'as des étourdissements. Puis, ça, c'est la santé physique, là. Mais après ça, la santé mentale, tu manges plus avec tes amis, tu t'isoles, t'as peur de ce que les gens vont dire. Est-ce que tu penses que présentement, avec ce que je suis en train de te dire, tu te sens en santé? Est-ce que tu penses que quelqu'un d'autre qui vivrait... ce que tu es en train de vivre, tu dirais que cette personne-là est en santé. Puis là, les gens réalisent à ce moment-là, finalement, que « Oh my God, je ne suis pas en santé, effectivement. » Mais tu sais, la santé, c'est « ben je suis capable d'aller à l'école, puis je suis capable de faire mes choses, puis je suis capable de me lever le matin, puis je ne suis pas anorexique comme cette personne-là peut l'être. Elle a besoin d'aide, mais moi, je ne le suis pas. » La comparaison de « je ne suis pas une vraie anorexique aussi, tu sais, parce que je ne pèse pas tant de livres, on ne voit pas mes os, on ne voit pas... » Donc, il y a comme toute cette idée-là de « j'ai pas besoin d'aide parce que je ne suis pas une vraie anorexique. » Et quand on leur expose les faits et qu'ils prennent vraiment conscience de « OK, ça a un impact beaucoup plus grand que qu'est-ce que je me dis ou qu'est-ce que je crois. » Et là, bon... tranquillement, là, on peut amorcer le processus de rétablissement, mais je dirais qu'il faut d'abord et avant tout établir le lien de confiance et justement cette prise de conscience-là que est-ce que tu crois que tu as un problème? Est-ce que tu crois que tu as besoin d'aide? Puis de quelle façon je peux t'aider là-dedans? Et là, ça ouvre la porte, là, ça soulage tellement que ce soit des jeunes ou des personnes un peu plus dans la trentaine, dans la quarantaine, de savoir qu'enfin, quelqu'un comprend qu'est-ce qu'ils vivent et qu'ils peuvent se sentir en sécurité et parler de leur vécu. Parce que encore là, c'est pas évident d'avouer pour une personne hyperphagique, toute la quantité de nourriture qu'elle peut ingérer en une seule soirée et très rapidement, toute la honte que cette personne-là peut vivre, quand elle prend le téléphone, là, c'est parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment tannée de cette situation-là. Là, c'est pour la personne hyperphagique, un peu plus adulte. L'enfant, c'est le parent qui va appeler, évidemment, parce qu'il voit que la santé de son enfant dégringole. Là, on a un enjeu d'amener le client à reconnaître son besoin. Mais dans les deux cas, là, c'est un travail vraiment de relation d'aide. Là. Puis c'est pour ça que c'est si important que les nutritionnistes soient formés en relation d'aide.
Ah, oh, tellement, je suis tellement d'accord. Puis je veux juste souligner un point super intéressant. Tu sais, tu disais, dans le fond, c'est que les gens ont la perception d'être en santé, mais c'est quoi la santé? T'sais? Puis je pense que pour chacun, la santé a une définition différente, mais au-delà de ça, la santé, on va souvent parler de santé physique, que ce soit dans toutes les campagnes de santé publique en général, là, pas plus maintenant, parce qu'on parle beaucoup plus de la santé mentale, mais longtemps, ça a été beaucoup de la santé physique. On va dans le bureau du médecin, on parle beaucoup de la santé physique. On va dans le bureau de l'infirmière, on parle beaucoup de la santé physique. Mais il ne faut pas oublier que la santé, c'est un état de bien-être physique, mentale et sociale. Quand il y a une de ces sphères-là qui est affectée, la santé est plus là, on n'a plus cet équilibre-là. Fait que c'est intéressant que tu ramènes ce point-là aussi. Tu sais, c'est quoi, dans le fond, la santé?
Oui, c'est ça. Et ça, c'est un bon levier pour aider les gens à prendre conscience de leur état actuel qui est absolument pas optimal. Moi, j'aime bien ça, peser sur ces petits pitons-là, là, comment va ta concentration, est-ce que comment ça va, les cheveux qui tombent. Puis là, c'est comme la panique, c'est comme « Ah! Je savais pas que ça avait rapport avec mon alimentation. Ça a vraiment rapport avec mon alimentation. C'est pour cette raison-là que j'ai une humeur instable. » C'est pour... Puis là, il y a plein de lumières qui s'allument, puis il y a plein comme d'espoir de dire « OK! » Et là, ben, on peut se mettre à travailler lorsqu'on comprend, dans le fond, les vraies raisons pourquoi tu te remettrais à manger. C'est pas parce qu'on veut te forcer à prendre du poids, c'est qu'on veut rétablir certains paramètres qui ont été détériorés à cause de tes choix alimentaires qui sont vraiment trop restrictifs. Fait que là, les liens se font, puis c'est comme, OK, là, on veut jouer sur son ambivalence de « j'ai tellement peur de prendre du poids » versus « oui, mais je veux quand même me sentir comme plus joyeuse, là, j'ai toujours triste, puis je pleure toujours, puis là, je suis tannée de ça. » Fait que là, on dit « ben peut-être que si tu mangeais davantage, ça pourrait t'aider. Est-ce que tu veux essayer? Je vais t'accompagner là-dedans. Fais-moi confiance. On va travailler pour que ça se fasse en douceur. » Puis tu sais, c'est de pas mettre trop d'accent non plus sur la prise de poids, mais plutôt sur tous les avantages que tu vas en tirer si tu te remets à manger. Évidemment, le discours intérieur d'une jeune qui souffre d'anorexie va « oui, mais je vais reprendre du poids! » Et là, il faut recalmer tout ça autour du poids pour pouvoir comme aider à modifier le comportement alimentaire puis amorcer des changements qui vont favoriser la santé physique et mentale.
Oui, totalement. J'aime ça. J'aime ça que tu en parles aussi parce que c'est souvent à ça qu'on va être confronté, la peur de prendre du poids. Puis je pense que là, je ne fais pas de cas d'anorexie, mais je pense que dans les cas d'anorexie, c'est pire parce qu'on s'attend à une certaine prise de poids. Mais c'est là où c'est l'enjeu. On va l'avoir des fois en boulimie, en hyperphagie, cette crainte-là aussi. Puis il faut apprendre y mettre moins d'importance et tout, mais ça peut être difficile pour la personne parce qu'il y a tellement de... Je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais de lourdeur associée au poids, à l'image corporelle, à l'estime de soi, à tout ça. Fait que c'est un gros morceau à travailler. Mais c'est intéressant de voir que c'est pour celles qui nous écoutent, qui vivent ça, il y a de l'espoir, ça se fait, ça se travaille. Il y a des professionnels qui sont là, comme Linda, pour vous aider.
Oui, puis de c'est évident qu'il faut travailler la relation avec le corps aussi. Quand tu travailles en trouble alimentaire, là, tu peux pas juste travailler la relation avec la nourriture, c'est de travailler la relation aussi avec le corps, parce que ce soit dans l'anorexie, dans la boulimie, l'enjeu du poids est tellement, tellement présent, va revenir à toutes les rencontres, il va y avoir des craintes par rapport au poids, par rapport au fait de « j'ai peur de prendre du poids, j'ai peur de pas en perdre, j'ai peur de rester à ce poids-là toute ma vie ». Et les peurs sont souvent démesurées par rapport à la réalité, donc toujours recadrer, essayer de comprendre c'est quoi les enjeux de la personne par rapport à ce poids-là. Parce que tant qu'on comprend pas la motivation ou la crainte d'une personne, c'est dur de l'aider. Quand on comprend mieux, c'est quoi ses résistances? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, lorsqu'on est dans un cas d'hyperphagie, on veut aider la personne à être en paix avec la nourriture, donc on veut aider la personne avec des expositions à des aliments qu'elle juge pas corrects, des aliments tabous, soit parce que c'est trop sucré, trop gras, trop de glucides, en tout cas, il y a plein de règles là, qui vont entrer en ligne de compte. Et quand on l'amène à ça, hey my God, ça soulève des peurs incroyables de dire « je peux pas faire ça, je vais perdre le contrôle, là, tu me connais pas Linda, j'ai jamais réussi, je vois pas pourquoi je pourrais réussir ». Et là, c'est comme « oui, je te comprends à 100%, t'as pas encore vécu d'expérience » dans les dernières semaines, derniers mois, dernières années, qui te confirment que tu peux manger du chocolat en sécurité, mais justement, à force de prendre conscience de qu'est-ce qui déclenche ton comportement compulsif, que ce soit tes émotions, tes pensées, tes réflexes, bien, on va venir à bout d'arriver à manger du chocolat en sécurité. C'est sûr qu'au début, tu ne crois pas, là. mais avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, juste le fait d'écouter la personne dans sa crainte va désamorcer énormément sa peur de prendre du poids, va te faire confiance, va embarquer dans le processus, va faire les étapes une après l'autre, va se rendre compte que finalement, je suis un peu capable, puis de normaliser le fait que est-ce que tu penses sincèrement que tu vas toujours y arriver parce que je te l'ai dit la semaine passée? Oui, il va y en avoir des moments difficiles. Puis les moments difficiles vont venir avec les difficultés qui vont arriver au fur et à mesure de ta vie, avec les nouvelles expériences que tu vas vivre. Mais ça va t'aider à faire des prises de conscience qui vont t'aider aussi à amorcer des changements puis être plus solide dans ta relation avec la nourriture. Fait que c'est passionnant, tout ça.
Hey, mais ça paraît, on l'entend dans ta voix. Ça résonne vraiment aussi, je suis pas dans directement, moi je suis comme avant dans le continuum avec ma clientèle, mais c'est des enjeux qui reviennent énormément, là, toute la relation au corps et tout, donc oui, ça me parle énormément, puis c'est encourageant aussi comme discours pour quelqu'un qui vit ces problématiques-là présentement, vraiment. Mm-hmm. Fait que là, on a parlé d'anorexie, dans ce qu'on connaît le plus, on connaît aussi quand même la boulimie en tant que telle, mais est souvent confondue avec l'hyperphagie ou ce qu'on appelle maintenant l'accès hyperphagique. Est-ce que tu veux nous parler un peu de la différence entre les deux?
Oui. Dans la boulimie, il va y avoir des comportements compensatoires. Donc, les gens vont manger de grandes quantités de nourriture, mais vont utiliser par la suite des comportements compensatoires de toutes sortes, que ce soit se faire vomir, prendre des laxatifs, faire énormément d'activités physiques. Entre autres, là, c'est les trois façons là, qui sont les plus communes d'éliminer la nourriture qui va avoir été ingérée en trop. Mais ça, dans la boulimie, c'est vraiment manger une grande quantité de nourriture et après utiliser un mécanisme compensatoire. Dans l'hyperphagie, l'accès hyperphagique, c'est vraiment... il n'y a pas de mécanisme compensatoire. La personne ne va pas apprécier se faire vomir, ne voudra pas prendre des laxatifs. Fait qu'évidemment, on peut remarquer davantage la prise de poids chez l'hyperphagique et souvent, la personne qui va souffrir de boulimie peut être de poids tout à fait normal. Donc, des fois, ils vont passer sous le radar pendant plusieurs années, cette clientèle-là, qui est extrêmement souffrante. Et qui se bat tous les jours de sa vie avec ces mécanismes compensatoires qui sont très obsessionnels. Là. Les mécanismes compensatoires, c'est vraiment comme un toc. Là. C'est comme ça me prend ça, si j'ai pas ça, je ne survivrai pas. Jusqu'à tu sais, comme des gens qui deviennent quasiment les bras engourdis, les jambes engourdies, du sang qui coule de partout. C'est très, très, très intense dans certaines situations. Là, le dégoût d'avoir tellement mangé puis de le besoin de tout laisser aller, cette nourriture-là. Là. Fait que c'est des problématiques aussi très, très, très difficiles qui ont aussi des impacts très importants au niveau de la santé. Là, manger des grandes quantités de nourriture à se faire saigner, à avoir des l'estomac là, qui peut même éclater. Fait que c'est très, très, très dangereux. Se faire vomir au point où le potassium, il chute. C'est incroyable les conséquences là, aussi au niveau de la boulimie. Fait que, oui, ces gens-là ont besoin d'aide énormément. Puis, évidemment, on utilise pas les mêmes stratégies parce que chaque personne est différente, là, mais c'est quand même beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie, comprendre le besoin de la personne, comprendre ses déclencheurs, ramener la paix avec la nourriture, ramener la paix avec le corps, connecter avec le corps pour aider la personne à ressentir qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, autant au niveau des signaux de faim, de rassasiement, mais aussi au niveau des émotions, parce que beaucoup, beaucoup les émotions vont amener les compulsions alimentaires. Donc, détecter les moments de vulnérabilité, tout l'impact aussi. Tu sais, faut vraiment travailler plus large que juste l'alimentation. Il faut aussi observer comme, OK, la personne vit quoi présentement? Quel est son état au niveau du sommeil? Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de son état de stress, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est tous des enjeux qui aident la personne à normaliser le comportement. On ne veut pas que la personne fasse rien avec son comportement, mais qu'elle soit moins dans le jugement, dans la critique, dans la comparaison. Pourquoi j'y arrive pas? Je ne suis pas bonne, je ne suis pas capable, ça n'a pas de bon sens. Puis il y a des langages extrêmement méprisants qui vont sortir là, de ces... De ces situations-là, là, quand ça fait plusieurs fois qu'on mange jusqu'à se sentir extrêmement rempli, ça aide pas au niveau de l'estime de soi. Donc, c'est d'aider la personne à justement avoir un langage bienveillant afin d'apaiser l'esprit puis de pouvoir amorcer la démarche là, de réintroduire les aliments dans un contexte sécuritaire.
Tout à fait.
Ça prend la paix là, pour pouvoir se connecter avec le corps. On n'a pas le choix. Puis actuellement, ben, c'est dur avec la culture des diètes d'être en paix avec la nourriture puis d'être en paix avec le corps. C'est pas quelque chose qui est nouveau, évidemment, mais c'est quand même quelque chose là, que là, on comprend de mieux en mieux, qu'on peut de plus en plus expliquer c'est quoi les enjeux de la culture des diètes. Là.
Ah, totalement. Puis ça devient difficile aussi à suivre parce qu'il y a la culture des diètes, mais il y a aussi tous les discours de santé qui sont axés beaucoup sur la perte de poids. T'sais, mes clientes vont souvent se faire dire par leur médecin, entre autres, qui, eux, se font dire ça par leur formation, par les études, la façon qu'on étudie aussi, les facteurs de risque, la santé, tout ça. « Ah, mais perdre du poids, puis ça va aller mieux. » Oui, mais je peux pas dire ça à quelqu'un qui struggle avec sa nourriture, avec sa relation avec la nourriture ou qui a un trouble alimentaire. On peut pas faire ça, ça a des conséquences. Puis de toute façon, mais le poids, c'est pas un comportement, c'est pas quelque chose qu'on peut modifier comme on le souhaite. C'est pas quelque chose qui est sur le plein contrôle de l'individu, c'est tellement plus complexe que ça. Mais de fait, de mettre cet accent-là sur la perte de poids, ça devient aussi mélangeant pour les gens parce qu'il va y avoir quand même ce souci-là de santé, de dire « oui, mais je comprends tout ça ». Mais si je perds pas de poids, ma santé, elle va se dégrader parce qu'on n'arrête pas de me dire qu'être dans un corps qui est plus gros, ben ça va affecter ma santé. Fait qu'il y a tout ça qui vient se mélanger aussi, puis ça, c'est normal là, que les gens soient mêlés. Là. C'est pas évident, là. C'est vraiment pas évident.
Oui, puis c'est ça notre rôle aussi, c'est d'amener la personne à réaliser que pour aller chercher la santé, il y a toutes sortes d'habitudes de vie qu'on peut mettre en place. Avoir une bonne hygiène de vie, un bon sommeil, gestion du stress, faire de l'activité physique, oui, de façon à faire bouger le corps dans le plaisir, évidemment. Oui, la relation, les comportements alimentaires, ça fait partie aussi de la santé, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut un peu plus contrôler, pas quand on est sous l'emprise des émotions, mais qu'on comprend mieux, qui est plus tangible. Et oui, là-dessus, tu peux mettre ton énergie et ça va t'amener à avoir plus de chances à être en santé. Maintenant, c'est ça, c'est conscientiser qu'il y a vraiment d'autres moyens que la perte de poids. La perte de poids doit être mise en pause pendant une démarche là, de rétablissement au niveau d'une mauvaise relation avec la nourriture parce que si la personne est accrochée à l'idée de « il faut que je perde du poids, il faut que je perde du poids, il faut que je perde du poids » puis ne voit pas de résultat, ben c'est sûr que la motivation va dégringoler. Puis s'ils ne comprennent pas, ben c'est quoi pourquoi j'écouterais mes signaux corporels? Je ressens pas mes signaux corporels. OK, mais je vais te l'apprendre. Pourquoi tu veux m'apprendre ça? J'ai juste à manger moins. Oui, mais c'est important que tu sois en contact avec ton corps, que tu puisses te fier à ton corps, que tu puisses avoir confiance à ce que ton corps t'envoie comme signal. C'est un meilleur repère que tu n'auras jamais dans ta vie si tu es en mesure de ressentir ce qui se passe dans ton corps. Et pour ça, ben, il faut que tu calmes ton mental qui te dit « il faut que tu maigrisses ».
Exactement, exactement. Non, c'est super intéressant, c'est super complexe. Puis de toute façon, quand on parle d'alimentation, souvent les gens vont penser, OK, qualité alimentaire, portion et tout ça, mais il y a les comportements alimentaires. Puis tu sais, justement, dans la dernière version du guide alimentaire canadien, c'est un point qui est discuté, qui est abordé, comment on mange. Pas juste qu'est-ce qu'on mange, mais comment on mange. Mm-hmm. Est-ce qu'on est reconnecté à nos signaux? Dans quel contexte on va manger? Pour quelles raisons on va manger? C'est là qu'embarque la relation avec la nourriture, puis elle a sa place dans un contexte de santé. Donc, ça va pas, un ne va pas contre l'autre. Je pense que c'est un mythe qu'on entend beaucoup aussi.
Ouais, ouais. Et les gens ont tellement peur aussi de l'alimentation intuitive parce que c'est moins tangible qu'un régime.
Ben oui. C'est pour loin. Les gens rationnels, c'est rochant, là. Ben oui, t'as peu, là. C'est perturbant, ah oui. Tabarouette. T'as pas le contrôle, là. T'sais, une portion, t'as un contrôle dessus, puis je le comprends, là.
Oui.
Là, on est en train de te dire, ouais, non, tu laisses le contrôle, puis c'est ton corps qui décide de t'as peu, là. Moi, là, mon cerveau, il fait wow, c'est normal.
Je ne peux pas me fier à mon corps, je suis désolée.
Mais... Il m'a fait qu'est-ce que je voulais pas qu'il fasse, là. Je veux dire, je peux pas y faire confiance. Oui, ton corps, là, s'il a fait ça, il y a des raisons. Parce que tu n'as pas travaillé avec lui, tu as peut-être travaillé contre lui sans le savoir, tu sais.
Oui, c'est ça, sans le savoir, parce que les gens ne font pas ça intentionnellement, mais quand tu te coupes de tes émotions, quand tu es vraiment dans les règles alimentaires, tu n'es pas connecté évidemment avec le corps, donc tu perds cette intuition-là du corps. Tu sais, l'enfant, lui, il n'a pas appris des règles, il a appris à respecter ce que son corps lui dit. Il a faim, ça gargouille, il faut qu'il crie puis qu'il demande de la nourriture. Puis si on essaie de donner une bouchée ou une gorgée de plus, c'est comme non, j'en veux pas, c'est plein, c'est rempli. Et nous, c'est parce qu'on apprend des règles. Ça, c'est correct, ça, c'est pas correct. Il faut que tu manges plus de légumes, il faut que tu fasses plus de ci, il faut que tu fasses moins de ça, il faut que tu fasses... Là, à un moment donné, ça devient tellement compliqué qu'on rentre dans notre cerveau, on rentre dans notre rationnel, on essaie d'organiser, de structurer ça, et on se déconnecte complètement de ce qui se passe dans notre corps. Et on ne porte même pas attention à « Est-ce que j'ai faim présentement? Qu'est-ce que j'ai le goût de manger présentement? Qu'est-ce qui me tente? Est-ce que j'ai plus le goût de quelque chose de froid? Est-ce que j'ai plus le goût de quelque chose de chaud? Est-ce que j'ai le goût de quelque chose de croquant? Est-ce que j'ai le goût de quelque chose de mou? Est-ce que j'ai le goût de... » Et là, on définit, parce que notre corps va nous le dire au fur et à mesure qu'on va se poser les questions, il va nous le dire qu'est-ce qu'on a besoin. Et c'est très rassurant de savoir que, hey, finalement, je les ai, mes réponses. Quand je me pose vraiment la question, est-ce que j'ai faim, je peux avoir la réponse si je m'arrête et que je connecte avec mon corps. Des fois, ça peut prendre du temps parce que les signaux peuvent être brouillés, surtout dans le cas de l'anorexie. On ne demande pas à une jeune anorexie d'écouter ses signaux parce que ça n'est vraiment pas la bonne chose à faire. Là. Elle a besoin de plutôt manger, rassurer son mental, être plus consciente, être plus concentrée. Et après ça, on passera à l'écoute des signaux. Mais l'alimentation intuitive, je l'utilise quand même avec les gens qui souffrent d'anorexie, mais d'une façon différente, parce que des principes comme écouter les signaux de faim de rassasiement, on ne peut pas les utiliser en début de démarche, mais on va les utiliser éventuellement parce qu'ils vont revenir, ces signaux-là. Ça, c'est mal compris. Vraiment, vraiment beaucoup.
Oui, je suis d'accord, mais c'est souvent mal interprété, puis j'en ai fait plusieurs publications, puis j'en parle souvent avec ma clientèle parce que souvent, c'est ça qu'on va me dire, c'est « Oui, mais Sarah, l'alimentation intuitive, j'ai essayé de commencer à m'intéresser à ça, j'ai lu des livres là-dessus, j'ai écouté des podcasts, je trouve ça vraiment fascinant. » Mais là, comme, fait que là, je m'écoute, puis ben je mange un repas par jour. Ouais, non. C'est ça, c'est pas tout à fait ça. C'est parce que là, ton corps, il a été probablement dans un cercle de restriction à un moment donné, où tu as fait des régimes ou des diètes ou whatever, où il a pas été assez nourri, puis là, ben il te parle plus, il t'envoie plus ses signaux, tout simplement. Fait que tu peux pas, t'es pas prête à jour 1, te fier sur tes signaux. C'est plus nuancé et complexe que ça, l'alimentation intuitive. Puis des fois, ça prend des étapes préalables pour pouvoir accéder à ça après.
Ouais.
C'est vraiment d'aller rassurer ton corps pour qu'il puisse te renommer ces signaux-là après. Fait que des fois, c'est là qu'on a besoin d'aller chercher l'aide d'un professionnel pour qui est habitué avec l'approche, évidemment, pour aller reconnecter avec son corps, parce que ça se fait pas juste avec le mental de dire « OK, ben là, go, jour 1, je commence. » Fait que c'est des choses qu'on va voir souvent où il va y avoir apparition de rage, puis là, on va se dire « Ben comment ça, j'ai des rages, je m'écoute, mais non, c'est ça, c'est normal que tu vives ça. »
Puis même dans le volet « L'écoute des signaux de faim », c'est que les gens sont même pas conscients de « C'est quoi un signal de la faim? »
Ah, mais
c'est aussi... juste mon ventre qui gargouille. C'est comme « Ah, oh, j'ai mal à la tête, là. Je déjeune pas, je dîne pas. Puis là, j'ai mal à la tête. Ou je suis super irritable. » Ben, c'en est un signal de la faim, ça. Mm-hmm. Et là, les gens font comme « Sérieux? C'est un signal de la faim? » Ouais, puis à quel moment ton mal de tête commence? Puis à quel moment ton irritabilité commence? Puis à quel moment? Et là, de tout refaire comme le processus et de se dire, ah, finalement, c'est vrai, j'ai faim pas mal plus tôt que ça, finalement. Et, mais c'est ça, c'est que c'est, mon ventre gargouille pas, puis de toute façon, c'est très rassurant de pour une personne qui est hyperphagique de ne pas avoir faim. C'est comme « Ah, ben j'ai pas faim, je mangerai pas, ça va m'aider à perdre du poids. Super, ben oui. Mon corps a pas faim. » Non, 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 tes signaux sont déréglés présentement. Là, ce qui va être important, c'est de régler tes signaux en prenant des repas de façon régulière, puis en observant qu'est-ce qui se passe, puis en voyant l'impact de ce repas-là dans le temps, qu'est-ce qui va se passer. Et là, tu te reconnais tranquillement avec tes signaux, puis tu comprends mieux. Ah, ça, c'est avoir mal à la tête, ça, c'est un indicateur. Parce que les gens, c'est ça, ils sont tellement contents de ne pas manger, ils ne déjeuneront pas, ils ne dîneront pas, et ça va amener comme une espèce de fierté, puis après ça, oups, de l'irritabilité, puis après ça, une grande vulnérabilité, puis après ça, ils sont affamés, après ça, ils ont un comportement qui est compulsif. Fait que là, ils vont manger des grandes quantités de nourriture, puis après ça, ils vont se dire, ben là, je suis pas pour déjeuner, j'ai tellement mangé hier soir. Fait que là, c'est un cercle vicieux qu'il faut briser absolument pour aider la personne à retrouver un équilibre au niveau de ses apports énergétiques pour avoir le maximum d'énergie au niveau de la journée, de se sentir en sécurité parce que tu as l'énergie pour faire ta journée, tu as l'énergie pour être concentré, tu as l'énergie pour avancer des projets, ta concentration est meilleure. Ça aide à tous les niveaux, mais il faut vraiment mettre l'emphase sur les avantages et les désavantages de reconnecter avec les signaux et quel bienfait t'en tires lorsque tu manges et quel méfait lorsque tu déjeunes pas, dînes pas, qu'est-ce qui se passe aussi. Okay. Plus les gens comprennent, plus ils adhèrent aux recommandations.
Oui, puis le phénomène que je vois beaucoup aussi, c'est quand on est dans ce processus-là, puis que là, la faim réapparaît, il y a une peur. Il y a une peur associée à « mais j'ai tout le temps faim. Comment ça que j'ai faim aux 3-4 heures? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. » Puis là, il y a la crainte de prendre du poids parce qu'on se fait dire de manger moins. Mais là, si je me mets à manger plus souvent, mais au contraire, tu sais, la faim, c'est notre allié, puis on est content. Puis c'est normal qu'elle revienne des fois aux 3-4-5-6 heures. Ça dépend des gens, ça dépend de tellement de facteurs. Mais reste que c'est normal, puis on est content que le corps recommence à nous parler, c'est bon signe. On s'est tellement fait dire, puis tu sais, moi, je pense à mon adolescence, « Ah, t'as faim, mange la gomme. Ah, t'as faim, bois un verre d'eau, ça va passer. » On s'est tellement fait frapper ces messages-là qu'avoir faim, c'est rendu comme, pour bien des gens, c'est rendu, j'ai peur, parce que là, ma faim me fait peur, parce que j'ai souvent faim, mais ça aussi, c'est important d'aller normaliser ça, parce que notre corps, si on veut qu'il nous parle, ben, il faut ressentir la faim. Si on veut ressentir le rassasiement, il faut sentir la faim à la base.
Exactement.
Ensemble.
Ouais. Puis tu sais, il y a même... on essaie de normaliser pour les gens qui sont pro-perte de poids le fait que c'est normal d'avoir faim. C'est bon signe si t'as faim!
Ouais.
C'est parce que t'es en train de perdre du poids. C'est comme, non, t'es pas supposé d'avoir faim.
Ça me fait penser à une publication qu'on m'avait envoyée, tu sais, puis que, bon, finalement, ça a l'air que c'était dans un contexte de fitness ou whatever, mais reste que c'était quand même assez perturbant, là. C'était comme, c'est normal que tu aies faim, puis attends-toi. Si t'es pas capable de soutenir un état d'être affamé, puis d'avoir faim, puis de pas manger, c'est ça que ça voulait dire, c'est que t'auras pas les résultats escomptés, puis c'est comme, attends, on est tellement ancré profond dans la culture des diètes ici, c'est tellement épouvantable puis wrong comme message, mais il y en a tellement souvent des messages comme ça, c'est hallucinant, là. C'est normal que les gens soient mêlés. Là.
C'est facile d'accrocher sur ce message-là.
Ben
là.
Oui,
c'est extrêmement facile de dire « Ah, OK, c'est bon signe, la croyance s'installe, après ça tu te dis « ben j'ai faim, donc c'est bon signe. Il y a comme vraiment, là, il faut que tu recordes les fausses croyances et te dire, ben non, c'est pas bon signe. Ça veut dire que ton corps est affamé et que là, les rages alimentaires risquent d'arriver éventuellement. Tu sais, comprends que plus tu vas te restreindre, plus tu vas avoir envie de manger certains aliments et plus ça va t'amener vers la compulsion alimentaire. Donc, plus tu as un discours restrictif dans ta tête, plus le combat va être grand par rapport à ta nourriture et tu t'en sors plus à un moment donné. Non. C'est envahissant. Les gens ont ça dans leur tête non-stop. Penser à manger, penser à pas manger, penser équilibré. Manger est devenu une corvée pour certaines personnes.
Ben oui, la charge mentale est énorme, là.
C'est incroyable, incroyable, incroyable.
C'est fou. Puis le plus ironique là-dedans, c'est que des fois, ce genre de comportement-là, de se dire « ben je vais soutenir ma faim, je vais soutenir ma faim », puis là, bang, d'avoir des rages, des pertes de contrôle, de vraiment manger outre outre ma faim, finalement, bien, ironiquement, des fois, c'est ça qui conduit à un gain de poids. C'est quand même assez hallucinant, pas dans tous les cas, mais des fois, ça va conduire à ça. Fait que c'est vraiment, on est vraiment dans un air où il y a beaucoup de mésinformations puis de désinformations, puis ça... C'est ça, ça vient, je comprends que ça vient difficile pour les gens de s'y retrouver.
Exactement, c'est pour ça qu'on est là, hein, Sarah?
C'est ça, exactement. On essaye fort! On essaye fort, mais oui, effectivement.
Ce qui est agréable, c'est qu'il y a de plus en plus de nutritionnistes, de psychologues qui travaillent la relation avec la nourriture et le corps.
Oui.
Donc, au début, moi, je trouvais qu'il y avait tellement pas de ressources. Tu sais, moi, j'ai gradué en 1996, ça fait très, très, très longtemps, puis je me suis intéressée très tôt là, à la relation avec la nourriture, parce que je sentais qu'il y avait un manque incroyable au niveau de l'information, de « mange moins, bouge plus, et ça va tout régler ». Tu sais, je faisais comme « non, 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 c'est pas vrai, je la vois la cliente en avant de moi, là. Je le vois que c'est difficile pour elle, je le vois que c'est pas ça qu'elle veut, puis je le vois que... elle n'a pas les ressources présentement. Donc, oui, moi, j'avais besoin de me former à l'époque et c'est ce que j'ai fait parce que c'était important pour moi d'aider cette clientèle-là à pouvoir se sentir en paix avec la nourriture. Et ben je l'ai fait, mais j'étais dans je te dirais, les pionnières là, à ce moment-là. Là.
Je le crois.
oui, il n'y en avait pas beaucoup là, qui parlaient de ça, là, des émotions, puis du discours interne, des déclencheurs, travailler un comportement. Il a vraiment fallu que j'aille du côté de la psycho, aller chercher des outils de la psychologie pour pouvoir transposer ça avec la clientèle qui souffre de troubles alimentaires. Je suis bien contente de l'avoir fait, puis je suis tellement contente de voir toutes les nutritionnistes qui aujourd'hui, ben, je sais pas au bac présentement s'il y a plus de cours qui se donnent au niveau de la relation difficile avec la nourriture ou.
Écoute, moi, ça fait 10 ans que j'ai terminé. Fait qu'à ce moment-là, très peu, là, on avait un cours, une petite partie de cours sur les troubles alimentaires, mais c'était un exposé. Puis, tu sais, la relation avec la nourriture, ce qu'on avait, c'est le cours obésité avec Simone Lemieux qui était exceptionnel. Mais moi, j'étais allée à l'Université Laval. Fait que, bon, j'avais Simone Lemieux. C'était vraiment exceptionnel. On parlait de grossophobie, on parlait de tous ces concepts-là, mais ça allait pas très loin. J'ai fini mon bac, je me sentais pas outillée pour autant travailler avec des troubles alimentaires que travailler avec des relations troublées avec la nourriture. Il a fallu que j'aille faire des formations, dont Karine Gravel, donc plein de lectures et de formations pour m'auto-former moi-même. Actuellement, j'ai parlé à une finissante, pas une finissante, mais une étudiante en nutrition, oui, une finissante, excuse-moi, en nutrition de Ottawa, par contre, qui me disait que c'était pas très présent malgré tout encore dans le bac, mais là, j'imagine que ça peut dépendre peut-être des cursus universitaires, que c'était un petit peu abordé, mais pas assez pour que, c'est ça, les gens se sentent outillés, là. Donc, ouais. À voir, mais ça va vite quand même, 3 ans et demi, pour avoir toute cette information-là, ouais. Faire des stages.
Oui, on n'avait rien sur la grossophobie, là. On avait.
Non, ouais, c'est
on ça. On n'abordait même pas ça. Ce sujet-là, les préjugés par rapport aux personnes grosses, la stigmatisation. Moi, j'ai travaillé aussi mes propres biais parce qu'on en
a c'est sûr.
Là.
Ben oui.
Et là, tu te rends compte que, oui, moi aussi, j'en ai des préjugés. Moi aussi, j'ai ça. Et de détricoter tout ça pour pouvoir être le plus transparente possible dans ma réalité, qui n'est pas une réalité dans laquelle j'ai vécu là, de troubles alimentaires ou de poids qui est apparent. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose que je comprends parce que j'entends tellement, mais je comprends parce que j'entends, mais je ne vis pas la situation. Donc, ouais. C'est là qu'il faut vraiment se former et se former et se former constamment là, par rapport à tout ça.
Totalement. Mais il y a de l'espoir parce que dans le sens que je pense que ça se parle déjà de plus en plus. Moi, j'ai eu l'honneur, je vais dire ça comme ça, d'aller rencontrer les étudiants en nutrition de plusieurs universités dans leur... Il appelle ça menu, là, c'est un meeting des étudiants en nutrition qu'ils font à chaque année, puis j'ai eu vraiment l'honneur d'aller parler de ces concepts-là. Il y avait une super belle ouverture. Je sais qu'il y a plein de gens qui se forment sur le sujet de professionnels. Il y a des gens qui forment d'autres professionnels, moi j'en forme, mais je travaille avec des médecins qui sont super ouverts sur la question, qui eux aussi forment leurs collègues, des travailleurs sociaux, en tout cas, des infirmières, tout ça. Il y a une belle ouverture. Moi, quand je forme des collègues professionnels de la santé, autres que les nutritionnistes, parce que les nutritionnistes sont ouverts, mais les autres qui sont moins au courant de ces concepts-là, qui n'ont pas aucune formation là-dessus, honnêtement, c'est vraiment wow. La réception là, à tous ces messages-là, c'est exceptionnel. Fait qu'il y a de l'espoir, gang. On va l'avoir.
Ouais. Oui, puis c'est ça, moi j'ai offert des cours à l'UQO. À Saint-Jérôme, on a le pavillon ici, là. Donc, okay. J'ai offert avec Annie Aimée, qui est prof à l'université. Fait que ça a été une super belle expérience. Wow. C'est... À l'hôpital aussi, au niveau des infirmières, tout ça, là, que j'aimerais vraiment aller faire un petit tour pour pouvoir leur amener un peu mon expertise en tant que nutritionniste. Parce que souvent, ça fait longtemps là, que je travaille avec des gens qui souffrent de troubles alimentaires. Puis, je suis quand même connue là, dans ma région, puis un petit peu partout là, avec ANEB, les CLSC et tout ça. Fait que les gens, quand ils m'appellent, est-ce que tu peux aider telle cliente pour telle raison, ta. Et là, quand je leur pose des questions, là, ils font comme, « Ah, il faut absolument que tu viennes nous rencontrer. Mais oui! Que tu viennes nous parler davantage de ça parce qu'on en voit tellement puis on sait pas quoi faire. Oui, » Mais tu sais, ils appellent pas pour demander de l'aide, mais il y aurait besoin là, d'avoir plus de ressources pour mieux comprendre la problématique, référer au bon endroit aussi, puis avoir quelques outils là, pour bien intervenir avec cette clientèle-là. Des fois, un mot peut faire une différence. Là.
Ah, mon Dieu! Tellement! Dans tous les sens, là, autant positif que négatif.
Oui,
là.
Oui! Des
fois, je sensibilise là-dessus aussi, de dire, tu sais, la conseil de manger plus de légumes, c'était pas bien évaluer la personne devant toi, puis qu'elle a un trouble alimentaire, une relation troublée, tu peux vraiment faire plus de tort que de bénéfices, même si c'est un conseil que tu as pris du guide alimentaire puis qu'il y a vraiment une éducation, une sensibilisation à faire là-dessus. Fait que go, Linda!
Tu sais, moi, dans mes premières formations avec Équilibre, c'était ça, intervenir sans nuire à...
Ouais.
Je sais pas si ça existe encore, là.
Oui, ça existe encore,
cette formation-là, Équilibre, je sais qu'il existe encore, mais la formation...
La formation, elle existe encore.
Elle existe encore. Fait que j'étais... tellement curieuse de faire, ben c'est quoi nuire, c'est quoi, je veux pas nuire moi, c'est quoi qu'il faut faire, puis ben c'est ça, tu sais, ils ont des super beaux principes, des super beaux outils aussi pour nous aider, totalement. Sur des ressources intéressantes.
Totalement. D'ailleurs, parlant de ressources, je vais mettre dans la description de l'épisode les liens justement pour Anève, fait que si jamais tu nous écoutes, puis... tu penses que tu as peut-être des problématiques au niveau de ton alimentation puis que tu recherches des ressources, je vais te mettre ce lien-là en commentaire de l'épisode. Même chose pour Équilibre. Puis Linda, ben toi aussi, j'imagine qu'on peut te trouver quelque part, peut-être, si on désire travailler avec toi.
J'ai un site Internet, j'ai également un groupe Facebook qui est destiné vraiment aux gens qui souffrent de la problématique. Donc, c'est ça. Fait que, oui, les gens peuvent me trouver assez facilement en tapant sur Google.
Merveilleux. Puis, je vais mettre évidemment ton lien pour ton site Internet dans la description de l'épisode aussi.
Super.
Merci beaucoup. Écoute, on n'a pas fait le tour de toutes les... On a fait les principaux troubles alimentaires, il restait les troubles atypiques, mais tu sais, je pense qu'on a fait quand même un beau tour du chapeau de... tous les enjeux qu'on peut retrouver autour de ça. Puis c'était vraiment éclairant. Merci d'avoir partagé ton expertise sur le sujet. Je suis certaine que ça va avoir inspiré puis aidé beaucoup d'auditrices.
Ouais, puis si ça tente, on peut faire la suite partie 2 éventuellement.
Oui, ça me tente, certain. Mais gang, on vous laisse. Puis mais moi puis Linda, on continue de se parler pour regarder ça, c'est sûr. Donc, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup, Linda.
Merci à toi.
T'écoutes le podcast et tu te dis « Oh wow, ça me parle, mais ich, j'y arriverai pas toute seule, j'ai vraiment besoin d'avoir un accompagnement personnalisé », bien, ça tombe bien parce que j'offre des consultations individuelles partout au Québec. Je t'invite sur mon Linktree, sur Instagram ou mon Facebook ou encore sur mon site internet pour en savoir plus. Merci de ton écoute! Si jamais tu as des commentaires ou des suggestions sur le podcast, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux Sarah Normandin, nutritionniste, Facebook et Instagram. Tu peux aussi consulter mon site internet sarahnormandinnutritionniste.com. Ça va me faire plaisir de jaser avec toi!